du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et animez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle.
Et vous renouvellerez la face de la terre.
Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens, Saint Pilice, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Approchez si vous voulez. Alors, nous en sommes dans les vertus cardinales. Donc, on va expliquer que les vertus cardinales avaient pour but de nous aider à contrecarrer, contrebalancer l'influence des blessures du péché originel. Quatre vertus cardinales essentielles: la prudence, la justice, la force et la tempérance. Donc, nous en sommes à la question 47 de la Seconda Secundae, donc sur la prudence. J'insiste sur la prudence, n'oubliez pas que c'est la vertu du chef. Et comme les temps sont durs aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une des vertus les plus importantes pour nous, après la grâce, sur les vertus théologales, de foi, d'espérance et de charité. La prudence est capitale parce que c'est cette vertu de prudence qui va nous aider, éclairée par le don de conseil, va nous aider à faire les bons choix. Je sais si on a besoin de faire les bons choix aujourd'hui, que ce soit pour nous, pour les gens dont nous avons la charge. Je voudrais reprendre rapidement l'article 16 de la question 47 parce que j'ai oublié un point, je me suis aperçu après. Donc, saint Thomas d'Aquin, dans la question 47, se posait, donc c'était la prudence considérée en elle-même, et il va se poser la question, l'article 16, peut-on perdre la prudence par l'oubli? Et ici, il y a un point très important, il dit que il se peut que la prudence ne soit pas détruite directement par l'oubli, mais elle est plutôt viciée par les passions. Selon cette parole de Daniel, la beauté t'a séduit, la passion t'a corrompu le cœur. Donc c'est une phrase importante, je la répète, donc que les passions, quand elles ne sont pas contrôlées, vont vicier l'usage de la prudence. Et rappelez-vous cet ordre dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui doit exister dans une âme en état de grâce, c'est-à-dire Dieu, l'intelligence, la volonté, les passions. Donc si les passions sont viciées, si elles ne sont pas raisonnables, ne sont pas guidées par la raison et par l'aide de la grâce, eh bien, à ce moment-là, la prudence va être viciée elle-même. Et si la prudence est viciée, elle ne pourra plus s'exercer proprement, correctement. Qu'est-ce qui va se passer? Les passions vont évidemment avoir la liberté totale, et puis ça devient la révolution dans cette âme. Donc je crois que c'est vraiment, s'il y a une vertu qu'il faut arriver à inculquer aux enfants, plutôt aux adolescents, je dirais, c'est vraiment une vertu aussi pour les adolescents, les futurs hommes, c'est la vertu de prudence. Donc pourquoi? Parce que ces passions vont être exacerbées évidemment par les trois concupiscences. N'oublions pas que même si en soi la vertu cardinale qui va travailler sur les concupiscences, enfin bloquer plus ou moins en partie les concupiscences, ces trois concupiscences des yeux, de la chair et de l'orgueil, c'est la vertu de tempérance en soi. Mais la vertu de prudence étant la chef, la tête de toutes les vertus cardinales, et bien la vertu de prudence a un rôle aussi au niveau de la mortification des trois concupiscences. Et Saint Thomas, c'est intéressant, il cite aussi un texte de l'Exode, ne reçoit pas de présent, c'est un texte au juge, ne reçoit pas de présent, ils aveuglent même les hommes prudents. Donc, Il faut demander au bon Dieu cette grâce de la vertu de prudence et savoir vraiment se mettre à genoux quand on a des décisions importantes à prendre pour ne pas tomber justement dans les excès, parce que si la prudence n'est pas là pour diriger les passions, bien, on va suivre les passions, on va suivre les vertus cardinales. On va se rappeler à ce sujet la règle d'or de Saint-Ignace dans l'exercice de Saint-Ignace, la deuxième règle d'or, c'est qu'il y a deux règles d'or dans les exercices. La première, c'est le silence. Et la deuxième, c'est la règle numéro 5, à savoir dans les moments difficiles, quand on est découragé, quand on est en désolation, ne jamais, jamais prendre une décision. Attendre. Des tas de ménages se sont cassés la figure, des gens ont perdu leur travail, parce qu'ils ont voulu prendre des décisions quand ils étaient trop énervés. C'est une règle de prudence naturelle, mais elle peut nous aider à sauver notre âme. Je connais des cas même où des gens ont envoyé promener la foi catholique sur un coup de tête comme ça, parce qu'ils avaient reçu une remarque, intempestive d'un prêtre qui était peut-être pas très prudent, c'est possible. Eh bien, ces gens, un coup de tête, paf, sont partis chez les protestants. Ils carrément vont envoyer la foi catholique promener, puis ils vont partir dans une secte encore pire que la secte des protestants. Les protestants. Bon, passons à la question 48, puisque sur le polycopier, il y a peu de choses sur la vertu de prudence. C'est à la page 98 sur le polycopier, et on n'a rien avant la question 53. Donc, je complète ce qui manque. Bon. Alors, ici, Saint Thomas d'Aquin va parler de ce qu'on appelle les différentes parties de la prudence. Donc, il va distinguer entre les parties intégrantes, les parties subjectives et les parties potentielles. Les parties intégrantes, c'est des parties qui sont nécessaires pour que la prudence soit parfaite. Alors, Saint Thomas développera ça plus loin, mais voilà ce qu'il dit ici. Pour la prudence, donc, ces parties intégrantes, donc d'une vertu, les conditions qui doivent nécessairement concourir à son acte parfait, c'est-à-dire les conditions pour que la prudence soit parfaite, sont la mémoire, l'intelligence, le raisonnement, la docilité, l'habileté, la prévoyance, la circonscription, circonspection et la précaution. Bon, on en parlera, donc je ne vais pas détailler tout ça maintenant, ce n'est pas le moment. Je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est la mémoire. Il y a une formule qui explique très bien ça. Celui qui connaît le passé, qui prend l'exemple du passé, sera mené sa vie dans le futur. Parce qu'on fait en général toujours les mêmes bêtises. Quand j'étais en Australie, je disais souvent à mes amis australiens, je leur disais, les Français sont très doués pour faire des bêtises 50 ans avant tout le monde. Et les Australiens sont super doués pour faire les mêmes bêtises que les Français 50 ans après les Français. Je disais ça aussi aux États-Unis, c'était très clair. Et on voit très bien, je leur disais, c'est quoi le pire? C'est de faire les bêtises avant tout le monde ou les faire après les autres? Et c'est-à-dire que si quand on a la mémoire, on se rappelle les bêtises des autres. Il suffit par exemple de regarder aujourd'hui ce qui se passe dans toute l'Europe à cause de l'envahissement par des musulmans, l'islam qui envahit le pays complètement, avec les conséquences dramatiques pour la famille, pour la religion en France. Mais je disais ça quand j'étais en Australie, je disais, mais dis donc, vous n'oubliez pas qu'à 100 km au nord de l'Australie, vous avez l'Indonésie, où il y a 230 millions de musulmans, qui sont les uns sur les autres, sur des petites îles, et qui attendent qu'une seule chose, c'est de passer la... Plus qu'elle est la mer là-bas, ce n'est pas la mer de Chine, c'est bien. J'ai oublié le nom de la mer, bon, c'est pas grave. Une partie de l'océan Pacifique là-bas qui est au nord. Et les Australiens nous disaient, c'est des régions en plus qui sont pratiquement désertiques, des régions tropicales. Et donc, s'il y avait 200-300 000 musulmans qui passaient au nord d'Australie, on mettrait plusieurs mois à s'en apercevoir. Vous voyez, c'est là où intervient la vertu de prudence. Bon, par exemple, en politique, en matière de politique, un bon politicien, c'est quelqu'un qui sait utiliser le passé en matière de politique, analyser les circonstances du passé, pour arriver à revoir comment les choses se font. Ça, moi, je conseille souvent à ceux qui sont intéressés par les histoires de politique, par la politique intérieure ou extérieure en France ou ailleurs, qui commencent par se former d'abord avec des bons politiciens. Ça, je conseille beaucoup le livre du père Berthe sur la vie de Garcia Moreno. Garcia Moreno, c'est le président de l'Équateur. Quand on voit la politique qu'il a faite, c'est absolument ahurissant. Il a réussi à redresser le pays, à instituer un règne social de notre Seigneur Jésus-Christ avec la protection du pape Pie IX jusqu'à son assassinat en 1875 pour les francs-maçons. Oui. Donc cette mémoire est très importante. Celui qui a la mémoire du passé, qui se rappelle les erreurs surtout du passé, pourra corriger sa vie dans le présent. Ça, le drame, c'est que les gens oublient. Ils oublient complètement le passé, et du coup, ils refont les mêmes erreurs, parfois sous des petites variantes, c'est les mêmes erreurs qu'ils ont commises dans le passé. Oui. Et moi, je l'ai vu ça, je ne sais pas combien de fois, entre autres, par les ménages instables, des gens qui n'étaient pas encore vraiment très bien convertis, ou des gens qui étaient convertis, qui étaient mariés religieusement, mais qui étaient mal mariés. Donc, ils se mariaient une première fois, ça durait 6 mois, ça durait 1 an, 2 ans, 3 ans, très peu de temps en général. Et puis, le mariage s'écroulait, donc chacun partait de son côté. Alors, on avait des enfants, il n'y avait pas d'enfants, les enfants partagés, le mariage complètement ruiné. Et puis, je voyais, mais ça, en général, c'était très fréquent, surtout chez les jeunes femmes. Donc, elles revenaient voir le prêtre 6 mois après, un an après, avec un autre gars. Soit de façon légitime parce que le premier était mort, par exemple, une veuve, jeune veuve, mais qui a eu des tas de problèmes avant avec son premier mari, elle se remarie légitimement, elle veut se remarier avec un type, et quand elle vient me présenter le type, quand je discute un peu avec le type, je lui dis, mais je suis obligé de lui dire, pas devant le gars quand même, j'attends plus qu'il soit parti, je lui dis, mais vous voyez pas que c'est le même gars que vous avez épousé avant? C'est exactement le même genre de type que vous avez épousé avant, vous allez avoir exactement les mêmes problèmes. Par exemple, je sais pas combien de fois j'ai eu des cas comme ça aux États-Unis de jeunes femmes qui sont mis en concubinage avec un homme qui a des gros gros problèmes de boisson, par exemple. Et puis, donc elle souffre énormément parce que c'est des cris tout le temps, des hurlements dans la maison, des bagarres tout le temps. Et puis finalement, le gars s'en va au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, je sais pas, mais il s'en va. Et puis, elles se remettent en ménage malheureusement très vite, et ça ne rate pas, elles reprennent un gars qui a un problème de boisson. Je vais leur dire, mais bon sang, bonsoir, vous ne rappelez pas votre passé, toutes les histoires que vous avez eues, les violences domestiques que vous avez dû subir à cause justement du fait que vous n'aviez pas mal choisi au début, vous êtes en train de refaire les mêmes erreurs. Et là, en fait, quand on analyse, la racine, c'est l'absence de prudence. L'absence de prudence et donc l'absence de mémoire. On oublie les erreurs du passé. Au niveau des vertus subjectives, des parties subjectives, hein, donc les différentes espèces dont une vertu se compose. Donc les parties subjectives sont c'est déjà une prudence par elle-même. Alors que les parties intégrantes, c'est des parties de la prudence qui doivent toutes être là pour que la prudence soit complète. D'accord ? Pour que la prudence soit parfaite. Donc, partie subjective, on distingue la prudence militaire, la prudence économique, la prudence gouvernementale et la prudence politique. Bon, prudence militaire, c'est la prudence dans l'armée. S'il y a un lieu dans lequel les chefs d'armée doivent être prudents, c'est bien dans l'armée. Avant de, rappelez-vous, la phase de notre Seigneur, celui qui voit son ennemi s'avancer contre lui, ben d'abord, s'asseoir et vérifie s'il y a assez de soldats pour lutter contre l'armée ennemie qui veut envahir le pays. D'accord ? Prudence économique dans l'État, dans le choix des moyens financiers, dans l'usage de l'argent. Prudence gouvernementale chez les princes ou prudence politique chez les sujets. Oui. Et ça, c'est très important. J'en parle souvent dans les préparations de mariage. Une des vertus naturelles, et même surnaturelles, qui est très importante pour des jeunes mariés, surtout pour l'homme, qui est en principe le chef de famille, mais c'est la vertu de prudence. Donc un homme qui n'a pas de prudence, un jeune homme qui n'a pas de prudence et qui veut se marier, ça fait des catastrophes parce qu'il ne va pas être capable de gérer le bien qu'il aura à gérer, à savoir même les biens financiers. Quoi. J'ai eu des tas de catastrophes avec des gens, soit qui avaient des gros problèmes de boisson, soit d'autres addictions. On dit que l'addiction la plus terrible à vaincre, c'est l'addiction au jeu. Je veux bien croire, parce que je pense à un cas très précis que j'ai bien connu. Et les additions au jeu, c'était terrible. Hein, parce que le gars avait sa paye et il filait au casino et puis il dépensait toute la paye. Hein. plus rien pour nourrir les enfants, enfin mes enfants, ils mangeaient des nouilles pendant tout le mois parce que tout avait été dépensé. Mais ça, donc c'est pour ça que quand on a des décisions importantes, et s'il est une décision importante, c'est la fondation d'une famille, je pense que là, il y a vraiment besoin de cette vertu de prudence. Pour savoir choisir. La prudence, c'est la vertu du choix. C'est pour ça que la vertu de prudence est associée au don de conseil. Alors, les parties potentielles, maintenant. La partie potentielle des vertus adjointes, qui se rapportent à des actes ou à des matières secondaires. Donc, il y en a plusieurs. Dans la prudence, la première, c'est l'eubulie. C'est un mot qui est pratiquement jamais utilisé en français. E-U-B-U-L-I-E. C'est l'art de savoir prendre des bons conseils. Et c'est quelque chose de très utile. C'est l'art de savoir s'arrêter et prendre conseil. Quoi? Ou le bon conseil. L'eubulie ou le bon conseil, ici traduit par le bon conseil, c'est une bonne traduction. Le discernement, le jugement. C'est pour ça que dans les exercices saint Ignace, les règles de discernement des esprits sont tellement importantes. Parce que discernement, c'est quoi? Discernere en latin, c'est l'art de faire un choix. De choisir entre les choses importantes et les choses secondaires. Il faut garder le temps pour les choses importantes et pousser les choses secondaires. Là, la règle de discernement, c'est l'art de choisir ce qu'il faut. Et je pense qu'il faut que les parents fassent attention de bien former leurs enfants, surtout les adolescents et surtout les garçons, pour qu'ils soient capables d'apprendre cette vertu de prudence. N'oublions pas que la vertu de prudence est aussi une vertu naturelle, et que les vertus naturelles, comme toutes les vertus naturelles, elles s'acquièrent par la répétition des actes. Et donc il faut apprendre aux jeunes garçons surtout à avoir cette vertu de prudence. Ça peut commencer même par les choses matérielles. Je sais pas moi, si vous pratiquez un sport un peu extrême, qui est pas mauvais pour les jeunes, eh bien savoir imposer des règles de prudence, bien expliquer les règles de prudence pour qu'il n'y ait pas d'accident qui arrive. Bon, ce qui est vrai sur le plan physique est vrai bien sûr encore plus sur le plan surnaturel. Alors, Saint Thomas, donc après avoir fait à quelque sorte brosser un tableau général, maintenant on va détailler un peu les choses. Et question 49, je vais parler maintenant des parties intégrantes. Je vous rappelle que les parties intégrantes, c'est les parties qui vont concourir ensemble pour faire de la prudence un acte parfait. L'acte prudentiel, un acte parfait. Je vous les rappelle, la mémoire, l'intelligence, le raisonnement, la docilité, l'habileté, la prévoyance, la circonspection et la précaution. Donc il va couvrir tout cela assez rapidement pour justement nous aider. Si vous voulez, on sent que Saint Thomas veut couvrir complètement tous les cas dans lesquels la prudence est nécessaire. Bon. Alors la prudence, ça j'en ai déjà un peu parlé, donc je vais assez vite. Donc Saint Thomas va expliquer que l'expérience et le temps sont nos maîtres. Or l'expérience n'est que le résultat de plusieurs souvenirs. La prudence exige donc la mémoire. Donc celui qui a le passé, bien, il a le futur. Il y en a un adage en latin, civis pacem para bellum. Celui qui veut la paix, qui prépare la guerre. Vous voyez, ça c'est la prudence. Pour éviter la guerre, je veux la paix, je prépare la guerre pour protéger la paix. Ensuite, l'intelligence. Donc, on a expliqué déjà que la prudence était recta ratio agibilio. Rappelez-vous, la droite raison appliquée à l'action. Donc, la prudence revendique donc l'intelligence elle-même par l'une de ses parties intégrantes. Donc, évidemment, la prudence va agir aussi sur l'intelligence. Ensuite, la docilité, article 3. La docilité est une vertu essentielle pour les enfants. Pourquoi la docilité? On peut définir la docilité en disant que la docilité, c'est la vertu qui me fait comprendre que j'ai besoin d'être formé. Donc, c'est la racine de l'humilité. Un enfant qui n'a pas de docilité n'a pas d'obéissance. S'il n'a pas d'obéissance, il n'a plus de colonne vertébrale, il sera une nouille incapable de commander une fois adulte. Donc, il ne faut pas oublier ça, c'est que l'obéissance a pour racine la docilité. Donc, il faut pour pouvoir obtenir cette docilité, pour pouvoir obtenir cette obéissance, il faut la docilité. La docilité, c'est quoi pour des parents qui vont devoir travailler pour obtenir cette docilité de leurs enfants? C'est faire comprendre à l'enfant qu'il a besoin d'être formé. Le drame, c'est ça, c'est des gens qui prétendent ne pas avoir besoin d'être formé. Quelqu'un qui a pas besoin qui pense ne pas avoir besoin d'être formé, on ne peut rien en faire. Plus qu'un, on ne peut pas en prendre dans une maison, mais on ne peut pas le prendre dans une entreprise quelconque parce qu'il refuse d'être formé. Et ça, c'est le drame des jeunes actuels. Ils ne veulent plus être formés. Ils ne veulent plus être formés et ils ne veulent plus apprendre à travailler. Aujourd'hui, j'ai eu un monsieur qui est venu poser les fenêtres. Donc, je lui dis, mais vous êtes tout seul, il n'y a personne qui vous aide un peu là. Il me dit, vous savez, moi je travaille tout seul parce que les jeunes sont plus un peu impossibles. Il ne veut plus travailler, il ne veut plus apprendre à travailler. Et puis, dès que ce qu'ils veulent, c'est les 35 heures et à faire le plus d'argent possible en travaillant le moins possible. Bon, évidemment, avec des principes pareils, ce n'est pas comme ça qu'une entreprise marche. Mais... Donc, cette docilité est importante. Voilà ce que dit saint Thomas. Dans tout ce qui touche à la prudence, nous avons besoin d'être instruits par les autres et principalement par les vieillards qui tiennent le principe pratique de l'expérience même. Le respect des vieillards, c'est la base de la docilité. Dans toutes les civilisations anciennes, les civilisations même très pauvres, j'ai remarqué ça en Afrique par exemple, en Amérique latine aussi, le rôle du vieillard celui qui a les cheveux blancs. Donc le rôle du vieillard qui va diriger, donner les conseils aux jeunes. Dans les pays très pauvres, en Afrique par exemple, on voit très bien dans les tribus que le vieillard était le pilier central de toute la tribu. Dans la mesure où le vieillard était écouté, la tribu pouvait progresser. Si les vieillards sont méprisés, il ne peut rien qui peut progresser. Donc j'insiste sur cette vertu de docilité. Donc faites attention pour ceux qui m'écoutent sur Internet, qui ont des enfants, d'obtenir cette vertu de docilité. La vertu de docilité, c'est le tuteur qu'on met sur le plant de tomate, à côté du plant de tomate, auquel on attache le plant de tomate pour qu'il puisse planter vers le soleil. Donc pas de docilité, c'était... Parfois, il y en avait des jeunes séminaristes qui rentraient au séminaire avec un manque de docilité, c'était terrible. Ils ne faisaient pas long feu au séminaire, parce que justement, ils ne comprenaient pas la nécessité d'être formés. Ensuite, donc je passe rapidement, parce que ça, c'est quand même des choses faciles, l'habileté. La prudence, donc, dit saint Thomas, a besoin de cette... Je dis ce qui est ici, de même que la docilité nous dispose à recevoir des autres la justesse d'opinion, donc les conseils des autres, l'habileté nous met en état de l'obtenir par nous-mêmes. D'accord ? Elle n'est au fond qu'une certaine sagacité qui aide à découvrir facilement et promptement le meilleur parti à prendre dans la circonstance présente. La prudence en a besoin, surtout lorsqu'il faut agir avec résolution et sans retard. Et donc encore une fois, le prudent, c'est pas celui qui sait tout, pas celui qui connaît tout, mais celui qui sait prendre conseil. Malheur au chef qui ne sait pas prendre conseil. On voit les grands chefs, c'est comme ça, donc ils prenaient les renseignements un peu partout, ils amenaient tous les renseignements sur la table, et après c'est eux qui prenaient la décision. Quand ils prenaient la décision, c'était eux seuls qui prenaient la décision. Mais ils commençaient par prendre conseil auprès des gens qui pouvaient leur amener les renseignements dont ils avaient besoin. Le raisonnement, une partie d'imprudence, en fait c'est une partie d'intelligence. Tout le monde conçoit que pour être prudent, dit saint Thomas, nous devons en faire un bon usage, donc il faut le raisonnement. La prudence exige que l'homme en fasse un bon usage lorsqu'il s'agit d'appliquer les principes universels aux choses particulières qui sont si variées par elles-mêmes et si incertaines. Donc, il faut savoir appliquer le général au particulier. Alors, dans les ménages, c'est très important parce qu'en général, celui qui a une vue générale des choses, c'est l'homme. Et la femme va avoir une vue plutôt des détails. Elle va voir certains détails que l'homme ne voit pas. Et donc c'est là où il est important, dans une bonne famille, que l'époux et l'épouse travaillent en commun, tout en étant différents. Chacun a un rôle différent. Donc l'homme va voir les choses plutôt dans la généralité, et la femme va voir les détails pratiques. Elle va voir certains détails que l'homme est incapable de voir. Et au contraire, la femme aura plus de mal à avoir une vue d'ensemble des choses. Donc, l'homme, c'est pour cela que l'homme dans sa direction, dans l'exercice de sa vertu de prudence, l'homme va exercer d'abord son intelligence. Alors qu'au contraire, la femme, qui a un rôle complètement différent, elle est le cœur de la famille, donc elle va d'abord utiliser ses sentiments. Mais les sentiments sont nécessaires aussi. Si on n'utilise que l'intelligence sans utiliser les sentiments, notre direction de la famille va devenir sèche, voire même cruelle. Mais au contraire, s'il n'y a que les sentiments qui priment et qui manque une direction intellectuelle, eh bien à ce moment-là, on va suivre les sentiments et se faire rouler par notre cœur au lieu de s'élever à l'étape supérieure. On voit toutes les difficultés, par exemple, qu'ont des personnes qui se retrouvent veufs ou veuves, qui ont des enfants, et qui doivent, par exemple, je me rappelle, une confidente d'une dame que je connaissais bien, qui était une jeune veuve, qui avait des petits-enfants à la maison, elle avait encore des enfants, et elle était obligée d'élever les enfants elle-même, son mari était mort. Et elle m'a dit, c'est terrible, c'est élevé, parce que je suis obligée d'exercer une autorité masculine, ce qui n'est pas mon rôle. Je voudrais donner à mes enfants tout le cœur qu'une mère de famille doit donner à ses enfants, mais il manque un père, donc je suis obligé aussi d'avoir une attitude paternaliste en quelque sorte avec mes enfants, et ça fausse complètement les rapports entre la mère et les enfants. C'est pareil pour les pères de famille qui se retrouvent sans épouse parce que l'épouse est partie ou parce que l'épouse est morte tout simplement. Eh bien, il manque quelque chose, il a manqué un équilibre. D'ailleurs. Alors, on va continuer rapidement ces choses-là. La prévoyance, donc autre partie intégrante de la vertu de prudence, la prévoyance qu'il faut attacher à la mémoire. Hein. Prévoyance, donc, la providence, voilà ce que dit saint Thomas. La prudence ayant pour office propre de diriger les moyens vers la fin a pour partie principale la providence humaine ou la prévoyance par lesquelles nous apportons à une fin les futurs contingents soumis à notre action. Futurs contingents, ça veut dire les futurs qui peuvent changer selon les circonstances. Donc, il faut savoir adapter et donc avoir cette prévoyance. On ne peut pas toujours tout prévoir, mais quand même avoir une certaine prévoyance pour les coups durs qui peuvent arriver. On sait que les coups durs vont arriver, on ne sait pas quand, ni comment, ni les conditions des coups durs, mais ces coups durs vont arriver, et donc il faut savoir prévoir. On voit dans certaines civilisations, dans certaines sociétés, même certaines tribus, je me rappelle en Afrique, avec Groche, qui dirigeait la mission du Gabon pendant longtemps, que je connaissais bien, et il me disait, les fidèles noirs, les hommes ont énormément de mal à mettre de l'argent de côté. Et donc, par exemple, une fois, il y avait le premier prêtre gabonais qui allait être ordonné prêtre à Ikone. Et donc, il y a beaucoup de familles gabonaises qui sont venues voir là-bas en disant, ben non, on voudrait bien pouvoir aller à l'ordination. Ben, le Gabon à l'ordination, on peut y aller en pirogue, hein. Essayer de prendre l'avion. Alors, ils sont venus voir là-bas en disant, ben voilà, vous pouvez un peu nous aider parce qu'il faut qu'on mette de l'argent de côté, nous on ne sait pas. Alors, ben, l'abbé il a dû organiser une espèce de banque, donc dès que les gens avaient un peu d'argent de côté et qu'ils voulaient prendre les billets d'avion, il allait voir l'abbé Groche et puis il donnait de l'argent. L'abbé Groche mettait son banque ou une réserve, il notait telle personne a donné tel tant d'argent, et comme ça ces familles ont pu se payer le voyage pour aller à l'ordination du premier prêtre gabonais. Et donc cette prévoyance est importante. Circonspection, autre partie intégrante de la vertu de prudence. Circonspection, donc c'est la coordination des saint Thomas, coordination des moyens par rapport à la fin. Hein. La fin ne justifie pas les moyens. Donc il faut savoir adapter les moyens en fonction de la fin. C'est là où la vertu de prudence va intervenir, et surtout le don de conseil. D'accord ? La prévoyance donc signale d'avance les moyens qui de soi peuvent conduire à la fin. Et donc on voit encore les différents éléments qui permettent qu'une prudence devienne parfaite. Après, la précaution. Hein. Précaution, quand on ne sait pas très bien où on doit aller, on commence par ralentir, première chose à faire. Par nos actions, dit saint Thomas, le vrai, le faux, le bien et le mal sont souvent mêlés ensemble. Il arrive que le bien est souvent empêché par le mal et que le mal revêt souvent aussi l'apparence du bien. Dans cette occurrence, la prudence a besoin de précaution afin de discerner la manière dont elle dont elle peut faire le bien, éviter le mal. Là, on voit encore ça très bien dans Saint Ignace, l'exercice Saint Ignace. Donc au début, il parle des règles de discernement des esprits première semaine qui ont pour but de nous aider à lutter contre les tentations frontales, en quelque sorte, que le démon nous propose. Et après les confessions, il dit, il faut maintenant expliquer les règles de discernement des esprits qui correspondent aux tentations sous apparence de bien. Sous apparence de bien. Et c'est vrai que le démon est un ange, un ange des ténèbres, mais c'est un ange quand même. Donc il a une intelligence largement supérieure à la nôtre. Nous, on a une intelligence qui fonctionne par abstraction, on abstrait des sensibles. Donc les sensibles vont nous donner une image qui va être formée dans le cerveau à partir de tous les renseignements qui viennent des cinq sens, qu'on appelle l'abstraction, le système abstractif, qui est très imparfait. L'ange, il a pas de corps, donc il n'a pas besoin d'essence, il n'a pas de sens en fait, puisqu'il n'a pas de corps, c'est un pur esprit. Et donc lui, il va comprendre les choses par intuition. Et donc, le système intellectuel de l'ange est bien plus rapide au niveau de la compréhension que le système intellectuel de l'homme. L'homme comprend les choses par abstraction, l'ange par intuition. Alors les conséquences sont énormes, hein, parce qu'un ange, dit saint Thomas, on verra ça plus tard, un ange est incapable de commettre une faute véniale. Si un ange pêche, c'est mortel. En plus de ça, une fois qu'un ange pêche, il a mis sa volonté dans l'action qu'il a choisie, il ne peut plus revenir en arrière. Donc un ange ne peut jamais dire je fais une erreur, je reviens en arrière. Pourquoi ? Parce qu'il met sa volonté dans le choix qu'il a voulu suivre. D'accord ? Et donc cette précaution est absolument nécessaire pour avoir une prudence qui soit une véritable prudence. Et donc il faut connaître, quand on prêche les exercices Saint-Ignace, moi j'insiste beaucoup sur ces règles de discernement des esprits et concernant les tentations sous apparence de bien. Beaucoup de nos fidèles n'arrivent pas à comprendre ça. Ils ne comprennent pas que des choses bonnes, si elles sont faites sans prudence, peuvent obtenir une fin, un but, un résultat mauvais. Bon. Donc prier, c'est une bonne chose de prier. Mais à des moments, vous avez autre chose à faire que prier. Bon. Donc le démon peut rouler quelqu'un en poussant une personne à trop prier pour l'empêcher de faire son devoir d'État. Pareil pour la pénitence. La pénitence est nécessaire au salut. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous, dit notre Seigneur. Mais il faut savoir que les pénitences doivent être prudentes. Il y a des gens qui font tellement pénitence ou trop pénitence, c'est meilleur les dégâts comme ça, qui font trop pénitence et du coup, ils étaient incapables de faire leur devoir d'État parce qu'ils faisaient trop pénitence. Vous voyez ? Alors, faire attention à ça. Deuxième partie, enfin deuxième, rappelez-vous, les divisions. Donc de la question 48, de la prudence en partie intégrante, partie subjective, partie potentielle. Donc on a vu déjà les parties intégrantes. Question 50, les parties subjectives. Je vais un peu vite dans ces parties-là, parce que c'est une partie relativement facile. Les parties subjectives, donc ce sont les différentes espèces dont une vertu se compose. Donc question 50, article 1, l'art du gouverner est-il une espèce de prudence ? Il est manifeste, dit saint Thomas, que pour un chef, il existe un genre spécial de prudence. J'ai déjà expliqué, saint Thomas explique aussi que la prudence, c'est la vertu du chef. Bon. Le souverain, ce chef, donc, qui a pour mission de bien diriger la cité ou l'État, a besoin d'une prudence spéciale, qu'Aristote appelle une prudence royale, une prudence gouvernementale. Donc, c'est la première partie subjective de la... Première partie subjective de la prudence, bon, à savoir cette prudence justement gouvernementale qui est la prudence du chef dans l'exercice de son autorité. Alors, on pourrait appeler cette prudence la prudence gouvernementale chez les princes et qui va correspondre à une prudence politique chez les sujets. Et donc il y a une prudence gouvernementale en amont pour les chefs et en aval, pour ceux qui subissent l'influence du chef, la prudence politique. Alors, saint Thomas pose cette question, à l'article 2 de la question 50, y a-t-il une prudence que l'on doit appeler prudence politique ? Bon. Et là, je suis ici le Breton qui commente, le prix de la prudence politique ou civile est à la prudence gouvernementale ce que l'art de l'ouvrier est à l'art de l'architecte. Hein. Par la prudence proprement dit, l'homme se dirige lui-même dans l'ordre de son bien personnel, la prudence politique envisage le bien commun. Donc, la prudence politique, si vous voulez, c'est la prudence qui va s'effectuer, qui va passer dans nous aider à agir au niveau inférieur. La prudence gouvernementale, c'est au niveau supérieur. D'accord ? Y a-t-il une prudence économique ? Bon, évidemment, il y a une prudence économique. Non, la prudence économique, je ne vous dis pas de bêtises, la prudence économique, c'est la prudence dans l'usage des biens matériels. C'est une prudence extrêmement importante pour ceux qui sont en charge d'une maison. Bon, que ce soit une maison religieuse, que ce soit une famille, bon, et on a un budget à gérer, on a des fonds à gérer, et il y a ce qu'on appelle la prudence économique. Donc voilà ce que dit saint Thomas. Parmi les différentes espèces de prudence qui se rapportent à la direction de la multitude, dit le philosophe c'est Aristote, hein, l'une est économique, l'autre politique, l'autre législative, donc la prudence dans les lois. La prudence économique est celle donc qui préside au foyer domestique et qui donne surtout la prudence du chef de famille. Chef de famille. Oui. Donc le chef de famille, c'est celui qui va gérer un patrimoine qui ne, dont il n'est pas absolument propriétaire. Il est plus, comment on appelle ça en français, il est plus celui qui va gérer, c'est un gestionnaire plus qu'un propriétaire. Oui. Et donc c'est lui qui gère, ça ne veut pas dire qu'il va diriger les choses comme s'il était un chef d'esclave, hein, c'est pas comme ça qu'on gère la famille, mais il a, puisque il est le chef de famille, eh bien, il a, en quelque sorte, il est roi dans son royaume. Mais de même que le roi, un roi prudent, c'est un roi qui va savoir se faire conseiller par ses ministres, on peut dire qu'il va suivre toutes les idées des ministres, mais les ministres sont là pour ça, pour donner leurs avis. Le pape, c'est pareil. Le pape a un conseil. Le conseil du pape, c'est le conseil des cardinaux. Surtout des cardinaux romains, donc qui sont sur place, qui sont eux ceux qui viennent donner les conseils au pape. Et lorsque un pape, par exemple, voulait déterminer un nouveau dogme de foi, parce qu'il pensait que c'était utile pour le bien commun de l'Église, il avait commencé par prendre conseil. Pie IX l'avait fait, par exemple, de façon très formelle, au moment où il a voulu instituer le dogme de l'infaillibilité pontificale. Donc, il a pris conseil auprès de tous les évêques. Donc, il a demandé à tous les évêques du monde entier de donner leur point de vue, en disant, voilà, on pense, pourquoi est-ce que c'est prudent, un petit peu la question que s'est posée Pie IX, c'était, est-ce qu'il est prudent actuellement, vu l'état de la société, de rappeler que le pape est infaillible en matière de foi et de mœurs? Et donc, pratiquement tous les évêques ont répondu positivement, sauf évidemment les évêques français, qui font jamais comme tout le monde, avec Mgr Dupont-Loup, l'évêque d'Orléans, qui était très très opposé à la déclaration de l'infaillibilité pontificale, qui a répondu négativement. Mais le pape, finalement, avec prudence, donc après avoir exercé justement ce don de conseil, pour prendre conseil auprès de ceux qui sont là pour lui donner des conseils, justement, eh bien, il a décidé d'aller de l'avant. D'accord ? Donc la prudence économique, c'est surtout donc la prudence du chef de famille. La prudence, dit saint Thomas, qui préside au foyer domestique. La prudence économique a donc pour fin de faire vivre honnêtement la famille. Bon. Donc la prudence économique, par exemple, consiste à savoir ne pas gaspiller de l'argent avec des choses qui ne sont pas nécessaires, de ne pas vouloir vivre au-dessus de ses moyens, ou aussi de savoir mettre de l'argent de côté. Dieu sait si aujourd'hui, par exemple, qui court, les gens ont besoin de mettre un peu d'argent de côté, hein. Alors, il y a une autre prudence qui s'exerce, ce qu'il appelle, saint Thomas appelle la prudence militaire. Il reprend les principes d'Aristote. Prudence militaire, c'est la prudence, c'est l'habileté en quelque sorte de celui qui conduit la guerre. Hein, et le salut d'une armée dans le conseil. Un chef d'État ou un chef de guerre, pardon, qui veut faire manœuvrer ses hommes sans avoir pris sérieusement conseil, il fait des catastrophes. C'est pour ça qu'en principe, dans un combat, donc il y a des espions qui sont envoyés vers les territoires ennemis pour pouvoir justement dire voilà, où sont les lignes mitrailleuses, où sont les troupes, où sont les armements, quel genre d'armement il y a, etc. D'accord ? Donc le chef militaire qui prend des décisions sans justement savoir s'asseoir et vérifier un petit peu l'état de ses troupes et l'état des troupes contre lesquelles il va se battre, est quelqu'un qui va être souverainement imprudent. Donc il faut, dit saint Thomas, une prudence militaire pour repousser les attaques des ennemis. Donc la bonne direction, surtout dans le chef de l'armée, vient de la prudence. D'accord ? Ensuite, les parties potentielles. Je rappelle les trois parties. Donc, prud'homme, partie intégrante, partie subjective, partie potentielle. Alors, d'abord, le bon conseil, qui s'appelait le bully ou le bon conseil, c'est un peu la même chose. On pourrait traduire aussi ça par le bon sens. Hein, le bon sens, c'est une vertu naturelle. Hein. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Donc, le bully ou beau conseil, le bon sens, le discernement ou jugement. Donc, le bully, c'est d'abord le bon sens. La vertu, c'est une vertu, une partie potentielle de la prudence, qui va aider la vertu de prudence à agir correctement. Bon. Le bully n'est autre chose que le bon conseil dans les choses pratiques. Hein. Donc, c'est savoir chercher les conseils là où il faut. Hein. Il y a des gens qui sont capables de donner d'excellents conseils dans certains domaines, mais pas forcément dans tous les domaines. Donc il faut aller chercher à avoir les bons conseils, des gens qui sont aptes à donner les bons conseils dans telle circonstance ou dans tel état de fait. Le bully donc, nous fait découvrir les moyens les plus propres pour arriver à une fin, et principalement à la fin dernière. La fin dernière, c'est celui de notre âme. Alors, le bully, demande Saint Thomas, article 2 de la question 51, le bully est-elle distincte de la prudence? Donc le bully, au bon sens, ou le bon conseil, est-elle distincte de la prudence? Le bully dépend de la prudence, elle n'est pas une vraie vertu sans elle. C'est-à-dire c'est en quelque sorte une protection de la vertu de prudence. Après, le bon sens. Telle personne, donc dit Saint Thomas, qui est très éclairée dans le conseil, manque quelquefois de bon sens dans la pratique. Seigneur Lefebvre insistait beaucoup dans la formation qu'il donne au séminaire sur le bon sens. Il nous disait un séminariste qui n'a pas de bon sens ne peut pas devenir prêtre. Et c'est pour ça qu'il y avait des examens oraux, entre autres, qui permettaient aux supérieurs de vérifier le bon sens des personnes. Et en fait, Monseigneur Lefebvre a dû faire partir parfois certaines personnes qui étaient des personnes qui avaient une vie spirituelle très forte, même des modèles, mais qui n'avaient pas de bon sens. Il a manqué de bon sens, et quelqu'un qui n'a pas de bon sens n'aura aucun jugement. Alors, surtout confessionnal, ça peut faire des catastrophes. Et j'ai connu une personne comme ça qui manquait beaucoup de bon sens, qui était un très simple, d'ailleurs, sur des tas de choses, qui manquait beaucoup de bon sens, et finalement, il a dû interdire de confesser, parce qu'il n'y avait pas de bon sens. Donc, le bon sens, justement, c'est l'application de la prudence dans les cas particuliers. Alors, on avance. Saint Thomas donc complète dans le traité de la prudence maintenant ce qui va avec la prudence. Donc, il va parler du don de conseil. Le don de conseil, donc c'est le don particulier qui va travailler avec la prudence. Donc, c'est vrai que le don de conseil est un des dons du Saint-Esprit. Donc, c'est un texte d'Isaïe. Le prophète Isaïe va fixer les sept dons du Saint-Esprit, qui travaillent en général deux par deux. Le don de conseil est un don qui, en général, s'unit à la force. Donc on va avoir l'intelligence et la sagesse, la force et le conseil, la piété et la science, et la crainte de Dieu. D'accord ? Qui est un don, pour ça qu'il y a un nombre impair de dons, parce que la crainte de Dieu, c'est un don qui est un peu isolé par rapport aux autres. Donc, le conseil prend-il rang parmi les dons du Saint-Esprit? Question 52, article 1er. Donc, il cite Esaïe, sur le Christ, sur lui, donc le Messie à venir, se reposera l'esprit de conseil. Alors, je passe rapidement, je vous donne simplement les parties importantes des articles là. Le don de conseil, article 2, répond-il à la vertu de prudence? La réponse est positive. Ce don et cette vertu se correspondent mutuellement. C'est-à-dire que une prudence qui n'a pas le conseil, qui ne sait pas prendre conseil, est une prudence extrêmement imprudente. Vous avez des gens qui sont des chefs, qui ne sont pas forcément des gens qui sont très prudents par eux-mêmes, mais ils savent prendre conseil. Ils savent aller chercher les bons conseils là où il faut. Et à ce moment, ils arrivent à faire des merveilles parce qu'ils savent s'entourer de gens efficaces. C'est très important en matière politique, entre autres. On voit très bien ça dans l'histoire de France, par exemple. des bons ministres qui ont pu faire aider le roi de façon extraordinaire, parce que justement, ils avaient le conseil au niveau des protections, des fortifications, etc., du rôle de l'armée, etc. Il y avait ce conseil, hein, ce qu'on appelait, les souverains avaient au Moyen-Âge, avaient le conseil, qu'on appelait le conseil de conscience. Le conseil de conscience des rois et des reines, c'est le conseil de conscience, quelque chose de très, très, très important. Et il y a eu des rois qui ont eu la sagesse d'aller chercher des saints dans le conseil de conscience. Qu'à Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul était au conseil de conscience du roi. Et le conseil de conscience, c'est ça, c'est la personne qui est capable d'aller chercher des conseils là où il faut. Vous voyez ? Bon, c'est un détail, mais c'est un détail quand même qu'un dit long. Ça m'est frappé chez Poutine en Russie. Poutine a demandé, a exigé à ce que le chef de l'église russe, l'église orthodoxe russe, soit présent au conseil des ministres. Pourquoi ? Parce qu'il voulait avoir, justement, il avait compris qu'il fallait l'union de l'église et l'État. C'est une chose que nos gouvernements en France sont incapables de comprendre, malheureusement. Et c'est ça, justement, qui est la catastrophe. C'est qu'ils ont absolument voulu séparer l'âme et le corps. Quelqu'un d'intelligent comprend que l'âme travaille avec un corps et qu'un corps travaille avec une âme. Et donc, il y a des domaines dans lesquels le conseil n'est pas forcément nécessaire, mais des domaines dans lesquels il est nécessaire. Donc l'âme ne doit pas constamment, la partie spirituelle ne doit pas constamment agir sur le corps, mais l'Église et l'État doivent être unis comme l'âme est unie au corps. Donc l'âme est à l'Église ce que l'État est au corps. Il y a des domaines dans lesquels l'Église n'a strictement rien à dire. Hein. Par exemple, je ne sais pas moi, savoir quel tracé d'une autoroute ou à quel endroit faut construire un pont sur une rivière, l'Église n'a rien à dire là-dessus. Mais dans d'autres domaines, oui. Et Saint Vincent de Paul avait fait un travail énorme, par exemple. Il avait été nommé aumônier des galères. Alors, il fallait voir les galères à l'époque, hein. C'était pas un parc de plaisir, c'était pas les prisons modernes. Hein. Et il a fait un travail énorme comme aumônier des galères pour adoucir le sort des galériens. Non pas pour les sortir des galères, parce que c'était des gens qui étaient coupables de crimes, mais il a fait un énorme travail, justement, comme aumônier des galères. Et comme il était au conseil de la reine, et donc il a pu utiliser son influence, justement, sur les autorités politiques pour arriver à faire du bien au niveau des uns. Alors, voilà ce que dit saint Thomas. Il dit « La prudence reçoit son perfectionnement de l'impulsion et de la direction que lui communique le Saint-Esprit, ce qui a lieu par le don de conseil. » Donc le don de conseil, en quelque sorte, c'est la colonne vertébrale de la prudence. D'accord ? Le don de conseil donc, correspond directement à la prudence par la raison qu'il a avec elle un même objet. Donc le conseil est quelque chose... Le don de conseil, attention, le don de conseil, c'est quelque chose de surnaturel. C'est un don du Saint-Esprit, donc c'est une... qu'on appelle la couronne de la charité. Alors, c'est un don du Saint-Esprit qui va agir sur une vertu qui est peut-être une vertu naturelle en soi. La vertu de prudence est une vertu naturelle. Mais la vertu naturelle a besoin d'être élevée, d'être dirigée, d'être éclairée par des dons surnaturels. D'accord ? Alors, le don de conseil subsiste-t-il dans le ciel ? Eh bien, la réponse est positive. Le don de conseil demeure dans les bienheureux en tant que Dieu leur continue la connaissance des choses qu'ils savent et que relativement aux œuvres qu'ils doivent accomplir dans le gouvernement du monde, il leur en apprend d'autres. Alors, quelle est la béatitude qui va correspondre au don de conseil ? Saint Thomas cherche à tout couvrir. Bienheureux les miséricordieux. Correspond au don de conseil. Vous voyez ? Il y a une phrase magnifique là de saint Augustin. Le moyen d'échapper, c'est l'article 4 de la question 52. Le moyen d'échapper aux maux de cette vie, c'est de pardonner, de donner. Le pardon des offenses, c'est quelque chose de typiquement catholique, le pardon des offenses. Seigneur Lefebvre nous fait remarquer que plusieurs fois, parfois il nous donnait des exemples dans ses conférences sur cette vie missionnaire qu'il avait eue avant. Et il nous disait, en Afrique surtout, dans les tribus très pauvres, les tribus en brousse, il nous disait, là, c'était extrêmement compliqué d'arriver à faire comprendre le pardon des offenses. Parce que pour eux, un chef n'a pas le droit de pardonner. Le chef, dans la mentalité africaine, surtout au Gabon, il nous expliquait, c'est celui qui commande, qui donne les ordres et qui extermine les ennemis. Donc pour eux, quelqu'un, un chef qui pardonne à un ennemi, c'est un chef qui est faible. Un chef qui est faible, c'est plus un chef. Et il avait d'énormes difficultés, il nous disait dans les pays de mission, le pardon des offenses, c'est quelque chose de très très difficile. Parce qu'il garde des espèces de rancune, de rancœur, comme on dit, se transporter de famille en famille, de génération en génération, parfois pendant des... Il nous disait, mais parfois il y a des haines qui sont transmises de génération en génération depuis des siècles et des siècles, il ne sait même plus très bien pourquoi il faut haïr telle tribu, mais ils se haïssent parce qu'on raconte qu'il y a 250 ans ou 150 ans, il y a le sorcier de la tribu d'en face qui a lancé le sort sur la grand-mère de l'autre tribu, et donc la grand-mère est morte, et donc c'est la faute du sorcier. Le sorcier a été payé par les gens de la tribu d'en face, donc il faut avoir la haine contre la tribu d'en face. Et Mgr Lefebvre nous disait, c'était très très difficile d'enlever cette haine, ou la nécessité de la vertu de charité. C'est pour ça que le don de conseil est un don issu de la charité, ce qu'on appelle la couronne de la charité. Et donc, et l'article 4, donc bienheureux les miséricordieux, c'est la béatitude qui va correspondre à ce don de conseil. Le moyen d'échapper aux maux de cette vie, c'est de pardonner et de donner. C'est important, surtout pour les gens qui ont le cœur sec, d'apprendre à pardonner. Quelqu'un apprend à pardonner, c'est quelque chose de magnifique, mais c'est pas quelque chose de facile. Rien ne nous est plus nécessaire que la miséricorde. Je suis en train de préparer dans les commentaires de Saint Jean, je suis en train de préparer là, pour les cours d'exégèse, il y a des passages magnifiques justement sur cette nécessité de la miséricorde. Que Dieu est plus grand quand il exerce sa miséricorde que quand il exerce sa justice. Rien ne nous est plus nécessaire que la miséricorde. Au don de conseil, répond spécialement la béatitude de la miséricorde. Non pas qu'il la produise d'une manière immédiate, mais parce qu'il en dirige les actes. Oui. Donc celui qui n'a pas la miséricorde a le cœur sec. Le cœur sec élimine la charité. Oui. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre dans les familles. Obliger les enfants d'une famille, de même famille, à se pardonner les uns les autres. Oui, des mamans ou des parents qui faisaient ça à la prière du soir. Vous voyez du cas, c'est extraordinaire. Mais parfois, c'est la maman qui agit à la prière du soir parce que papa n'était pas forcément rentré. Et la maman qui, évidemment, savait ce qui s'était passé dans la journée avec les enfants, les petits, bon, elle savait qu'il y avait une bagarre entre deux de ses enfants et qu'il y en a qui gardaient la rancune contre l'autre parce que l'autre lui avait piqué son jouet, je ne sais pas quoi. Et donc, la maman faisait un petit commentaire sans viser personne. Et elle expliquait donc qu'on ne peut pas demander au bon Dieu de nous pardonner si nous-mêmes on ne pardonne pas à ceux qui nous ont offensés. Donc il faut apprendre à puis après elle donnait l'exemple, elle reprenait l'exemple évidemment qu'elle avait vu dans la journée pour pousser l'enfant spontanément à savoir demander. Donc elle exigeait, elle dit maintenant si vous êtes disputé, il y en a deux d'entre vous qui sont disputés aujourd'hui, je veux que vous sachiez, vous appreniez à vous pardonner. Alors vous allez embrasser votre frère et vous lui demandez pardon. Donc le petit gamin qui allait embrasser son frère. Et pour lui demander pardon. Et puis il se réconcilie comme ça. Il n'y a rien de pire que cette haine, encore une fois, qui est gardée parfois dans les familles de façon très forte. Alors passons à la question. On a encore un peu de temps. On va commencer à la question 53, donc des vices. Vous voyez, donc, Saint Thomas couvre tout. Donc d'abord la prudence elle-même, puis les différentes parties de la prudence, puis le don de conseil. Qui est le don qui s'exerce avec la prudence, puis la béatitude qui s'exerce avec le don de conseil, et enfin les vices opposés à la vertu de prudence, et d'abord de l'imprudence. Donc si la vertu de prudence est la vertu du chef, on va pouvoir conclure que l'imprudence est la faiblesse la plus dangereuse chez un chef. Donc, l'imprudence est-elle un péché, se demande saint Thomas. Question 53, donc des vices manifestement opposés à la prudence, et d'abord de l'imprudence. Bon. Alors, saint Thomas va expliquer que l'imprudence est un péché qui comprend la précipitation, l'inconsidération, l'inconstance, trois vices qui naissent de la luxure. Oui. Alors, l'imprudence est-elle un péché? Voilà ce qu'il répond. Il n'y a que le péché qui puisse nous enlever le trésor de la grâce dont parle l'Esprit-Saint en cet endroit. L'imprudence est donc un péché. Bon, il faut distinguer les différentes sortes d'imprudence. Il y a des imprudences naturelles, des imprudences matérielles, qui ne sont pas forcément des péchés, qui est quelque chose d'ordre surnaturel. Mais il cite le livre des Proverbes, « Un trésor précieux et une huile abondante se trouve dans la maison du juste. L'homme imprudent dissipe tous ses biens. » Donc il y a une imprudence en matière surnaturelle, en matière spirituelle, qui est catastrophique. L'imprudence spirituelle, c'est quoi? Une personne, par exemple, qui va garder volontairement des occasions prochaines volontaires de péché grave. Ça, c'est la prudence. L'imprudence, ça s'oppose à une prudence surnaturelle d'éliminer les occasions prochaines volontaires de péché mortel pour rester en état de grâce. D'accord? Alors, cette imprudence, dit saint Thomas, peut aller jusqu'au péché mortel s'il y a mépris des règles de la prudence, ce qui arrive lorsque la précipitation avec laquelle on agit doit être regardée comme un mépris des enseignements divins eux-mêmes. Vous voyez ? Il y a des cas où une imprudence même matérielle peut virer au péché mortel. Hein. Par exemple, quelqu'un qui roule de façon très imprudente sur la route parce que, il y a de la glace sur la route, il y a du verglas sur la route, il ne fait pas attention, il sait qu'il y a du verglas, mais il s'en fiche, il dit oh, c'est pas grave, et puis il roule de façon imprudente, et puis il peut provoquer un accident pour lui ou pour les autres, et bien c'est quelqu'un qui peut commettre une faute grave, dans ce cas, à cause de certaines conséquences. Donc la prudence, dit saint Thomas, est un péché spécial. Hein. Ensuite, la précipitation. Là, il y a beaucoup de choses à dire au niveau de l'éducation. Les parents devraient bien lire, surtout les parents qui s'occupent d'adolescents devraient lire ces articles, vous voyez, qui sont très importants dans l'éducation et les expliquer à leurs grands-enfants, à leurs grands-adolescents. Hein. Précipitation, est-elle un péché compris dans l'imprudence? Voilà ce que dit saint Thomas, il y a des phrases magnifiques là. Quand un homme, emporté par l'impétuosité de sa volonté ou de ses passions, se jette immédiatement à l'action sans tenir compte du passé, donc il oublie la mémoire, du présent ou de l'avenir, sans raisonner, sans songer aux principes posés par les sages, il y a précipitation par défaut de conseil. Donc, le manque de conseil, le fait qu'il va mépriser le don de conseil, va faire qu'il va se jeter dans l'action sans tenir compte du passé, du présent ou de l'avenir. Vous voyez ? Et ça, c'est comme ça qu'on tombe dans l'activisme. L'activisme et le volontarisme, les deux. L'activisme, c'est une tendance, si vous voulez, à remplacer la prière par l'action. Hein, c'est comment le pape Léon XIII appelait l'américanisme. Parce qu'il avait remarqué que c'était quelque chose de très fréquent aux États-Unis. Et donc, il avait fait une lettre au cardinal Gibbons, cardinal de Baltimore, je crois, si mes souvenirs sont exacts, justement sur cela, pour demander de faire attention à cette tentation de l'activisme chez les Américains. Le volontarisme, c'est un peu différent. Le volontarisme, c'est quelqu'un qui veut obtenir quelque chose de bon, mais à la force du poignet, sans faire suffisamment confiance à Dieu. Bon, on peut travailler, aide-toi, le ciel t'aidera, comme on dit. Mais il faut savoir faire confiance au bon Dieu. C'est pas par nos propres forces qu'on peut obtenir certaines choses. On a besoin du bon Dieu. Hein. Donc il est évident que la précipitation est comprise dans le vice de l'imprudence. Vous voyez, donc ça c'est une phrase très importante, vous voyez, que tous les pères de famille devraient bien méditer. Donc celui qui se jette immédiatement à l'action sans tenir compte du passé, hein, ni du présent ni de l'avenir, sans raisonner, sans songer aux principes posés par les sages, et à précipitation par défaut de conseil. Donc celui qui ne sait pas s'arrêter avant d'agir pour prendre conseil est quelqu'un qui est souverainement imprudent. Vous voyez. Et donc, quelqu'un qui est souverainement imprudent est incapable de diriger quoi que ce soit. Ensuite, l'inconsidération. L'inconsidération. Est-elle un péché spécial d'imprudence? L'inconsidération qui fait tout le contraire de ce qui concerne la prudence est manifestement un péché spécial compris dans l'imprudence. L'inconsidération, ça veut dire qu'on ne sait pas s'arrêter pour examiner les différentes choses qu'on doit connaître avant de prendre une décision. Après, l'inconstance. Et on trouve des termes un peu synonymes, précipitation, inconsidération, inconstance. C'est l'article 5 de la question numéro 53. L'inconstance rentre-t-elle dans l'imprudence? L'inconstance, dit saint Thomas, consiste à se désister des bonnes résolutions que l'on a prises lorsque la raison, cédant à l'attrait d'un plaisir déréglé, renonce à commander ce qu'elle avait trouvé bon. L'inconstance est un manque de persévérance, si vous voulez, dans l'action. Je commence à agir et puis je me fatigue très vite. Le commandement en toute rectitude de la raison appartenant à la prudence, l'inconstance qui accuse un défaut dans la raison elle-même et tout spécialement dans le commandement est visiblement comprise dans l'imprudence. Donc, l'inconstance est surtout très grave chez les gens qui ont des grosses responsabilités. L'inconstance, c'est quelqu'un qui n'a pas de suite dans les idées, si vous voulez. Donc il prend une décision et puis dès qu'il y a moins de problèmes, dès qu'il y a moins de difficultés, paf, il abandonne. Alors l'article 6 est un article extrêmement important de la question numéro 53. Donc vous l'avez, un petit résumé de ces choses-là, page 98 sur le bolicopier. C'est bon parce que ça c'est important. Les vices précédents, donc, c'est-à-dire l'imprudence, la précipitation, l'inconsidération, naissent-ils de la luxure ? Luxure, c'est tous les péchés d'impureté. On a l'impression qu'il n'y a pas un rapport. Eh bien, simplement montre qu'il y a un rapport, justement. Rien n'obscurcit autant le jugement de la prudence ou la raison pratique que le plaisir des sens, dit-il. Et surtout la luxure qui absorbe l'âme entière dans les jouissances charnelles. Donc la personne qui se laisse aller à la tentation d'impureté est quelqu'un qui va devenir d'une imprudence rare parce que justement il ne sera plus capable de contrôler ses passions. Puisque les vices précédents tiennent tous à un défaut de prudence et de raison pratique, il est indubitable qu'ils ont leur source principale dans la luxure. Et le démon le sait, ça. Et c'est pour ça qu'il pousse tellement dans le monde moderne. On voit comment les péchés d'impureté sont pratiquement partout, quoi. On les respire pour les cinq sens, mais pratiquement, on peut les éviter, mais on ne peut pas éviter l'ambiance générale. On vit dans une poubelle, quoi. On vit dans une poubelle. Et donc, puisque les gens vivent dans une poubelle d'impureté, c'est le cas de la France actuellement et de beaucoup de pays, malheureusement, dits développés, eh bien, cette importance de la luxure dans nos vies, malheureusement, vont faire qu'on va avoir un manque de jugement, un manque de prudence dans l'action et surtout en direction des âmes. D'accord ? Donc, la luxure va absorber l'âme tout entière dans les jouissances charnelles, et donc, du coup, les âmes qui ont des problèmes d'impureté vont avoir beaucoup de mal à s'élever au-dessus de tout ça pour passer au niveau supérieur, savoir juger les choses. Donc, dans ce polycopier, j'ai mis une note de Saint Grégoire qui donne tous ses vices comme naissant la luxure. Le plaisir est ce qui trouble au maximum l'estimation de la prudence, surtout le plaisir charnel qui absorbe l'âme entière et l'entraîne au plaisir des sens. Bon, la perfection de la prudence, comme de toute vertu intellectuelle, consiste à se détacher du sensible. Par conséquent, les vices qui signalent un défaut de la prudence ou de la raison pratique naissent surtout de la luxure. Donc, ensuite, certainement explique, la luxure cause l'inconstance en éteignant totalement le jugement de la raison. Les vices charnels éteignent d'autant plus le jugement de la raison qu'ils détournent et éloignent davantage de la raison. C'est-à-dire que c'est des chocs, si vous voulez, à l'intérieur du corps tellement forts qu'ils empêchent le contrôle. C'est comme si on coupait l'influence de l'âme sur le corps.
C'est un peu comme les médias, là, qui nous balancent plein de sentiments pour pas qu'on puisse
répondre. Mais justement, c'est ça, c'est le but de la manœuvre, c'est remplir les âmes de choses secondaires pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses principales. Oui, c'est exactement ça. Bon, on va arrêter là. Donc la prochaine fois, on pourra commencer la question 54. Donc, on est presque au bout de traiter de la prudence. Donc, avec une question sur la négligence. 54, négligence. 55, 55 sur d'autres vies opposées à la prudence qui ressemblent, comme l'astuce, le dol, la fraude, la sollicitude, l'inquiétude sur l'avenir, etc. Et puis les préceptes de la prudence. Et donc on verra tout ça. Et pour terminer le traité sur la prudence, on va terminer par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Maintenant et à l'heure
de nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.